I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le 26 février, Emmanuel Macron mentionnait la possibilité de déployer des troupes en Ukraine. Le 7 mars, un peu plus tard donc, il déclarait que le soutien de la France à l'Ukraine ne connaissait aucune limite ni ligne rouge. Et ce jeudi, aux journaux de TF1 et de France 2, le président de la République a tenté d'expliquer aux Français sa stratégie sur le soutien à l'Ukraine. Il est revenu donc notamment sur ses dernières déclarations qui ont suscité beaucoup d'interrogations, de craintes, de colère parfois aussi. On va donc analyser le débat sur tout cela ensemble. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement et on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors, vous l'aurez très sûrement remarqué, y compris sur ce format des Actus du jour, depuis plusieurs semaines, l'aide à l'Ukraine, elle est au cœur des débats en France. Cette semaine, l'Assemblée nationale et le Sénat ont largement approuvé l'accord bilatéral de sécurité qui a été signé le 16 février entre Emmanuel Macron d'un côté et le président ukrainien Volodymyr Zelensky de l'autre côté. Et ce, même si on peut quand même noter qu'on était loin du consensus que l'on observe généralement en France sur les questions internationales. Concrètement, cet accord, il prévoit une aide financière de 3 milliards d'euros de soutien sur l'année 2024 pour l'Ukraine, ainsi qu'un renforcement des aides militaires, des engagements aussi sur l'envoi de matériel, de munitions et d'une assistance humanitaire. Mais ces dernières semaines, des déclarations du président français ont fait vivement réagir. On va voir donc dans un instant ces dernières déclarations dans le cadre du journal de 20h. C'était ce jeudi, on va vous résumer ça dans un instant. Mais avant ça donc, revenons sur les propos ces derniers jours. Les premières déclarations, ça a été ces déclarations autour de l'envoi possible de troupes en Ukraine. Le président français, en réponse à une question, avait en effet affirmé le 26 février que l'envoi de troupes occidentales au sol en Ukraine ne devait pas, je cite, être exclu, tout en estimant qu'il n'y avait pas de consensus à ce stade pour de telles hypothèses. Alors ces déclarations ne ferment pas la porte de fait à une potentielle intervention de troupes occidentales sur le sol ukrainien contre la Russie avait fait énormément réagir. Ça avait déjà inquiété pas mal de Français puisque selon un sondage Elab pour le journal La Tribune, 79% des Français s'opposent à l'envoi de troupes combattantes au sol. Elles ont aussi semé un certain trouble dans de nombreux pays européens qui ont contredit le président français en disant que ce n'était pas du tout d'actualité. Par ailleurs, dans la foulée, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, avait ensuite précisé que l'envoi de troupes combattantes n'était pas sur la table et qu'il s'agissait plutôt de la présence de formateurs, par exemple, formateurs donc français et parfois issus de l'armée et qui viendraient donc former l'armée ukrainienne. Enfin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui-même écarté cette éventualité. Il a notamment déclaré aux Français sur BFM TV lors d'une interview, je cite, « Vos enfants ne vont pas mourir en Ukraine », assurant aussi, je cite, que l'armée française peut rester sur son territoire. Alors pour certains, cette déclaration du président français constitue une forme d'ambiguïté stratégique, comme certains l'appellent, avec une volonté de créer un flou sur la volonté de la France pour potentiellement mettre en difficulté la Russie. Mais vous l'aurez compris, ça a aussi créé donc beaucoup de confusion, y compris au sein des alliés européens. De son côté, la Russie aussi a réagi. Il y a notamment le président russe, Vladimir Poutine, qui a pris la parole cette semaine et réagissant aux propos du président français, il a notamment déclaré, je cite, « En ce qui concerne les gouvernements qui disent qu'ils n'ont plus de ligne rouge avec la Russie, ils doivent savoir dans ce cas qu'en Russie, nous non plus, nous n'avons plus de ligne rouge avec eux. » Alors deuxième chose rapidement, certains pointent du doigt la communication de guerre du camp présidentiel, une communication qui fait donc là aussi beaucoup réagir. Par exemple, et au-delà des propos du président français, des comparaisons avec la Seconde Guerre mondiale ont été prononcées lors du meeting de lancement de la campagne des Européennes de Renaissance, donc le parti d'Emmanuel Macron. Valérie Ayer, qui est la tête de liste, donc la candidate principale pour bien le camp Renaissance, a notamment fait allusion aux accords de Munich de 1938. Bref, ces références et ces liens avec la guerre font beaucoup réagir l'opposition. Jordan Bardella, par exemple, le président du Rassemblement National, a déclaré qu'Emmanuel Macron était engagé, je cite, « dans une escalade dangereuse et irresponsable ». un constat partagé par une partie de la gauche, avec notamment Manuel Bompard, le coordinateur national de la France Insoumise, qui a regretté, je cite, que la France cherche à être le leader du camp de la guerre. Bon, sinon, il faut aussi noter que l'opinion publique est de moins en moins favorable au soutien à l'Ukraine. Actuellement, il y a 50% des Français qui approuvent encore la fourniture d'armes aux Ukrainiens par les Européens. 50%, c'est un recul de 15 points par rapport à février 2022 et l'invasion donc à grande échelle. Bon, et troisième chose qui rejoint le deuxième point qu'on vient de voir à l'instant, certains membres de l'opposition accusent le président français d'instrumentaliser en quelque sorte la guerre en Ukraine à des fins politiques et électoralistes, notamment à l'occasion des élections européennes. En effet, les élections européennes, c'est dans tout juste 3 mois. Et en l'occurrence, eh bien, la question de la guerre en Ukraine, c'est un sujet sur lequel il y a des différences majeures, notamment entre le président français et le Rassemblement national. Et en l'occurrence, c'est les deux partis qui sont actuellement en tête des intentions de vote pour les élections européennes. Alors attention, évidemment, un sondage, c'est pas une prédiction, c'est pas un pronostic, c'est simplement une cartographie, une photographie de l'opinion à un instant T. Et selon le dernier sondage réalisé par Ipsos et Tsevipov pour l'Institut Montaigne et la Fondation Jean Jaurès, 31% des Français comptent pour le moment voter pour le Rassemblement National, contre 18% pour Renaissance. C'est les deux partis assez largement en tête selon ces derniers sondages. Et ce qu'il faut donc potentiellement comprendre, c'est que le camp d'Emmanuel Macron a potentiellement intérêt à faire de la guerre en Ukraine un thème important de cette campagne. C'est une stratégie qui permet de se différencier et d'attaquer notamment le Rassemblement National, qui est donc en tête dans ces sondages sur sa proximité avec la Russie. En effet, Marine Le Pen avait obtenu un prêt pour sa campagne présidentielle de 2017 de la part d'une banque russe qui est proche du gouvernement russe. Sur ce sujet-là, elle s'était justifiée de son côté en estimant que les banques françaises ne lui avaient pas accordé de prêt. Par ailleurs, avant la guerre en Ukraine, elle avait multiplié des propos plutôt élogieux envers le président russe. Alors certes, depuis, le discours semble avoir changé, mais tout de même, le Rassemblement National a des différences majeures. Par exemple, il s'est abstenu de voter à l'Assemblée nationale sur cette nouvelle aide à l'Ukraine. Alors c'est pas le seul parti à ne pas avoir voté pour, eux en l'occurrence se sont abstenus, mais la France Insoumise par exemple a elle carrément voté contre. Bref, pour le président français, cela permet donc en quelque sorte de marquer une opposition. Là-dessus et sur ces accusations d'instrumentalisation, eh bien le président français a estimé ce soir dans son interview au journal de 20h que ces accusations n'étaient pas sérieuses. Et justement, on va revenir sur cette interview qui s'est déroulée ce jeudi soir, interrogée par Gilles Bouleau et par Anne-Sophie Lapix, journaliste respectivement de TF1 et de France 2. Il a répondu à plusieurs points qu'on a pu voir aujourd'hui. D'abord, sur la question de l'envoi potentiel de troupes en Ukraine, eh bien on est toujours relativement sur la même ligne. Il a déclaré qu'il assumait ses propos, que rien n'est à exclure et que toutes les options pour aider l'Ukraine sont possibles. En gros, c'est une possibilité. Pour autant, il ne rentre pas dans le détail du type de troupes que ça pourrait être, des troupes combattantes, de formation ou autre. Et par ailleurs, pour le moment donc, même si ce n'est pas exclu, eh bien ce n'est pas d'actualité. Sur le même sujet, Emmanuel Macron a précisé que la France ne mènerait pas d'offensive et ne prendrait pas d'initiative d'envoyer des troupes. Toujours sur le même sujet, Emmanuel Macron a estimé que en cas d'envoi de troupes, quelles qu'elles soient, eh bien cela se ferait en réponse aux actions de la Russie. Autrement dit donc, pas dans une logique d'offensive contre la Russie. Le tout car selon lui, je cite, l'objectif est de ne pas laisser la Russie gagner. En effet, selon lui, je cite toujours, la sécurité de l'Europe et la sécurité des Français se jouent là-bas, ajoutant que si la Russie gagne, la vie des Français changera et que la crédibilité de l'Europe sera réduite à zéro. Selon le président français, donc, le risque, c'est que la Russie s'attaque ensuite à d'autres pays en cas de victoire en Ukraine. Emmanuel Macron a aussi déclaré que la France n'était pas en guerre contre la Russie. Il a d'ailleurs refusé de parler de Vladimir Poutine comme d'un ennemi, le qualifiant plutôt d'adversaire. Parmi les derniers sujets, le président français a réagi aux récentes menaces de guerre nucléaire évoquées par la Russie. Selon lui, je cite, « notre capacité nucléaire nous donne une sécurité et nous devons donc nous sentir protégés. » Voilà pour l'essentiel de ce que l'on peut retenir de cette interview qui était consacrée quasiment exclusivement à la guerre en Ukraine. Je laisse la parole à Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après.
Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. L'ONU va mettre en place un pont aérien entre Haïti, un pays situé dans les Caraïbes, et la République dominicaine, le pays voisin, pour acheminer de l'aide humanitaire en Haïti qui fait face à une montée de la violence ces dernières semaines. Port-au-Prince, la capitale, est confronté depuis plusieurs jours à des violents affrontements entre les policiers et les gangs armés qui contrôlent environ 80% du pays. Ces gangs réclamaient le départ du Premier ministre Ariel Henry, qui a finalement démissionné ce lundi. Suite à ça, les organisations politiques et la société civile avaient en principe jusqu'à ce mercredi soir pour transmettre les noms des personnalités désignées comme membres du futur conseil présidentiel de transition à la Communauté des Caraïbes, une organisation internationale qui joue un rôle de médiateur dans les crises politiques et les conflits. L'objectif de ce conseil, c'est de choisir un nouveau premier ministre intérimaire et de nommer un gouvernement. Alors mercredi soir, certains médias haïtiens affirmaient que des noms avaient bien été transmis, mais pour le moment, il n'y a eu aucune communication officielle de la part de la Communauté des Caraïbes. On vous tiendra au courant. Deuxième actu, la Chine a dénoncé, je cite, « les méthodes de voyous des États-Unis » après que la Chambre des représentants, donc l'équivalent de l'Assemblée nationale, a largement adopté une loi qui pourrait mener à l'interdiction de TikTok aux États-Unis. L'objectif de cette loi, c'est de proposer un ultimatum à TikTok. Soit l'application chinoise vend sa filiale américaine dans un délai de 6 mois, soit elle est interdite dans le pays. Les autorités américaines accusent TikTok de menacer la sécurité nationale des États-Unis, mais TikTok nie catégoriquement tout lien avec le gouvernement chinois. Alors, pour être adopté, le texte doit maintenant être voté par le Sénat avant d'être signé par le président américain. De son côté, un porte-parole du ministère chinois du commerce a indiqué que la Chine, je cite, « prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre ses entreprises sans préciser comment ». On suivra ça. Troisième actu, en France, le mois de mai pourrait être marqué par une nouvelle grève des contrôleurs de la SNCF, puisque le syndicat Sudrail a déposé ce jeudi un préavis de grève pour la période du 30 avril au 31 mai, selon RMC. L'objectif, c'est de mettre la pression sur la direction avant une réunion prévue le 10 avril. Les contrôleurs réclament de meilleurs aménagements de fin de carrière. Et donc, si les propositions faites par la direction ne paraissent pas suffisantes, la grève sera maintenue pendant le mois de mai, qui comporte de nombreux jours fériés. Quatrième actu, 43 millions de personnes ont potentiellement été touchées par une cyberattaque qui visait France Travail, le nouveau nom de Pôle emploi. C'est ce qu'a annoncé France Travail ce mercredi, précisant qu'une fuite de données avait eu lieu entre le 6 février et le 5 mars. Alors, cette cyberattaque a touché les personnes actuellement inscrites, celles inscrites au cours des 20 dernières années, mais aussi celles qui ne sont pas inscrites mais qui ont un espace sur francetravail.fr. Si vous êtes concerné par ce piratage, vous serez individuellement contacté par la plateforme. Les informations susceptibles d'être volées sont par exemple les noms et les prénoms, les numéros de sécurité sociale ou encore les adresses ou les numéros de téléphone. Les coordonnées bancaires n'ont pas été volées. Pour le moment, on ne sait pas qui est à l'origine de cette cyberattaque. Une enquête préalable a été ouverte. Cinquième actu, le présentateur télé Cyril Hanouna a été entendu ce jeudi par les députés de la commission d'enquête sur les fréquences télé et ce mercredi, c'était le milliardaire Vincent Bolloré, notamment président du groupe Canal+. Leurs auditions interviennent 2 semaines après le lancement par l'Arcom, donc le gendarme de l'audiovisuel en France, du processus de renouvellement des fréquences de la TNT. En fait, les contrats des chaînes de la TNT avec l'Arcom se finissent en 2025 et donc un appel à candidature pour 15 fréquences de la TNT a été lancé. L'Arcom pourrait donc décider de ne pas reconduire certaines chaînes et notamment CNews et C8 qui appartiennent à Vincent Bolloré et qui sont régulièrement mis en demeure et sanctionnés par l'Arcom. Selon Le Monde, en 2 ans, C8 a été sanctionné 5 fois pour un montant total dépassant les 5 millions d'euros, à chaque fois pour des séquences survenues dans l'émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste. On connaîtra la décision finale de l'Arcom d'ici la fin de l'année, on vous tiendra au courant. Sixième actu, et c'est un chiffre alarmant, 4 ans après le confinement, 41% des étudiants présentent des symptômes dépressifs, selon une étude de l'Université de Bordeaux révélée ce jeudi par France Inter et le magazine Marianne. À titre de comparaison, ils étaient 26% avant la crise sanitaire. Autre chiffre important de l'étude, les idées suicidaires des 18-24 ans sont passées de 21% avant le Covid à 29% en 2023. Parmi les raisons, les étudiants parlent de leurs difficultés économiques, des études qui sont de plus en plus sélectives, mais aussi du chômage. Le contexte géopolitique avec les différents conflits internationaux et le dérèglement climatique joue aussi sur leur morale. En tout cas, si vous souffrez de dépression ou que vous avez des idées suicidaires, parlez-en à vos proches et tournez-vous vers un professionnel, on vous met des ressources en description. Septième actu, les voitures vont bientôt devoir être équipées de caméras intérieures pour surveiller que le conducteur n'est pas distrait ou ne s'endort pas au volant, selon les informations de BFM. En fait, dès le 7 juillet, toutes les nouvelles voitures homologuées par les constructeurs en Europe devront être équipées d'un système de détection de distraction ou de fatigue du conducteur. Concrètement, avec ce nouveau système, si le conducteur n'a pas les yeux rivés sur la route pendant plus de 3,5 secondes alors qu'il roule à 50 km/h ou plus, et 6 secondes quand il roule entre entre 20 et 50 km/h, il y aura un message d'alerte à la fois visuel et sonore. Et ce message deviendra de plus en plus insistant si le conducteur est de nouveau distrait. Ce système s'inscrit dans l'ambition zéro décès sur les routes de l'Union européenne à l'horizon 2050. Toutes les voitures neuves vendues en Europe devront être dotées de ces caméras d'ici l'été 2026. Autre actu, ce jeudi, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une loi pour pénaliser la fast fashion en France. Cette proposition de loi prévoit notamment l'interdiction de la publicité pour des plateformes de fast fashion comme Shein ou Temu par exemple. Elle prévoit aussi la mise en place d'un système de malus sur ces produits. Concrètement, ce malus pourrait aller jusqu'à 10 euros par article en 2030 dans la limite de 50% du prix de vente. Donc par exemple, si un vêtement coûte 20 euros, le malus maximum serait de 10 euros, portant le prix total à 30 euros. Le texte doit maintenant être examiné par le Sénat, on vous tiendra au courant. Et on finit avec cette actu, Beyoncé, Jay-Z, le milliardaire Elon Musk ou encore l'ancien président Nicolas Sarkozy étaient présents ce mercredi à l'Élysée pour assister à la remise de la Légion d'honneur de Bernard Arnault, le PDG français du groupe de luxe LVMH et l'homme le plus riche du monde. C'est Emmanuel Macron qui lui a remis la Grand Croix de la Légion d'honneur, qui est la plus haute distinction de l'Ordre national de la Légion d'honneur, qui récompense les mérites éminents militaires ou civils rendus à la nation. Actuellement, environ 70 personnes détiennent cette distinction, dont le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.